suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, qui sont les femmes employées par les services secrets français? Combien sont-elles? Que font-elles? Leur sexe a-t-il une importance? Bonjour Dalila Kerchouche.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous publiez « Espionne, double vie sous haute tension ». Vous avez enquêté dans un contexte marqué par les attentats, bien sûr, dans différents services, à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, à la Direction du Renseignement et des Enquêtes Douanières, auprès du Renseignement Militaire, auprès des Renseignements Généraux. Vous avez rencontré des femmes de toutes les générations, de toutes origines sociales, en blouson de cuir, en talons aiguilles ou en uniforme militaire, mais en tout cas toujours avec des convictions fortes. Vous allez nous raconter pourquoi et comment elles ont atterri dans ces métiers de l'ombre. Pour certaines d'entre elles, même leurs époux ne sont pas autorisés à savoir où elles partent en mission. Mais on va aussi découvrir que la réalité et le quotidien de ces femmes se passent aussi beaucoup derrière des écrans d'ordinateur, dans des bureaux. James Bond Girl, très peu pour elles finalement. Nous allons rentrer dans toutes ces vies grâce à vous, Dalila Kerchouche. Dalila Kerchouche, vous êtes journaliste, grand reporter. 300 pages de témoignages de femmes qui travaillent dans les services secrets français. Alors certes, elles ne livrent aucun secret d'État dans votre livre, mais tout de même, réunir autant de témoignages, il y en a une trentaine, c'est bien cela?
Oui, tout à fait.
C'est déjà en soi surprenant.
Oui, c'est une première. Jamais autant d'agents en activité n'ont témoigné dans un livre d'entretien. Cela représente environ un an et demi de travail pour moi, un an et demi d'enquête, où j'ai enquêté au cœur des services secrets. On me pose souvent la question, comment vous avez eu accès à autant
oui,
de services?
Filles de policiers, de militaires?
Pas du tout, pas du tout. En réalité, voilà, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années et au fil de mes enquêtes, j'ai constitué un carnet d'adresses et j'ai rencontré quelqu'un qui était haut placé dans l'univers du renseignement, qui m'a ouvert les portes d'un premier service qui était la DGSE. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à gagner la confiance des services, tout simplement par l'originalité de mon projet. Je suis la première journaliste à m'être intéressée aux femmes des services
secrets.
C'est ça,
vous avez dit, je veux rencontrer des femmes et que des femmes.
C'était mon objectif. Aucun journaliste qui s'occupe de renseignement ne leur a jamais posé la question. Ce sont pour la plupart des hommes et aucun ne s'est intéressé aux femmes. Donc l'originalité et aussi mon approche qui n'était pas du tout sensationnaliste, mais plutôt sérieuse, rigoureuse, a fait que tous les services, 7 services secrets, m'ont dit oui.
Pourquoi les différents services ont accepté l'enquête tout de même?
Ils ont dit oui, je pense, parce que tout simplement, ils m'ont fait confiance. Et ce qui m'a servi de sésame, ça a été d'avoir l'accord du plus puissant des services, qui est la DGSE.
Ensuite, sécurité extérieure.
La sécurité extérieure. Et je suis allée taper à la porte des autres services. Je leur ai dit, mais regardez, la DGSE m'a dit oui, faites-moi confiance.
Ça
m'a servi de sésame.
Ceux qui ont donné les autorisations sont des hommes, puisque à la tête de tous ces services, ce sont d'abord des hommes, même si on voit que les femmes sont montées très haut, juste derrière. C'est une volonté d'ouverture, de communiquer de la part de ces patrons hommes.
Mon livre n'est pas un livre de com.
Non, mais on
a
bien compris.
C'est vraiment
une
enquête
invitée dans les médias, ils le savaient.
Tout à fait, ils savaient qu'en m'ouvrant leurs portes, ce livre aurait un grand retentissement, et c'est le cas. Je pense que, surtout dans leur intention, c'est, je pense, de valoriser la place des femmes, de montrer qu'ils font des efforts vis-à-vis des femmes de leur service.
Sous-entendu, la France est très en retard ou pas par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aux États-Unis, la CIA?
Oui, bien sûr. Et c'est clairement ce que je dis dans mon livre, que j'ai écrit dans une totale liberté. Je pointe clairement le manque de féminisation. On a progressé, les services ont progressé. Les femmes représentent un quart des effectifs aujourd'hui, mais on est
globalement,
loin.
Globalement, tout service confondu, si on fait une moyenne, c'est ça, 25% de femmes.
Un agent sur 4 en France est une femme. Mais on est très loin de la CIA, où c'est un agent sur 2. On est très loin du Mossad, en Israël, où il y a 40% de femmes, dont 24% à des postes à responsabilité. Donc la marge de progression existe encore en France.
Vous avez finalement enquêté dans un contexte qui est largement marqué par les attentats. Ces femmes ont été interrogées sur leurs ressentis au lendemain notamment des attentats du 13 novembre ou très peu de temps aussi après les attentats contre Charlie Hebdo. Alors le livre a été bouclé avant les attentats de Nice en juillet dernier. Le questionnement omniprésent et tout autant chez les femmes que chez les hommes, hein, j'imagine, c'est qu'est-ce qu'on a loupé dans les services pour qu'on en arrive là ?
Bien sûr.
Il y a un sentiment souvent de culpabilité.
Chez certains agents, oui. L'objectif des services de renseignement est d'essayer de déjouer des attentats, de déjouer des attaques sur le sol français. Donc lorsqu'une attaque survient, c'est évidemment considéré comme un échec. Et la presse tire à boulets rouges sur les services, notamment la DGSI, en pointant toutes les failles et les dysfonctionnements dans le monde du renseignement.
Oui. Je me suis demandé si ce n'était pas aussi ça qui faisait que vous avez eu l'autorisation de rencontrer ces femmes agents secrets. C'était aussi d'une certaine manière de se racheter un peu une conduite.
Non, parce que la décision a été prise avant que les attentats n'éclatent. Avant Charlie Hebdo, j'avais déjà prévu de faire une enquête journalistique pour le magazine dans lequel je travaille. Et ça a été un peu le hasard que je me retrouve à la DGSE une semaine après les attentats de Charlie Hebdo. Comme ça a été le hasard aussi que je sois à la DGSE le jour des attentats du 13 novembre. Moi, j'ai posé toutes les questions que je souhaitais en toute liberté. Et évidemment, dans mon livre, j'ai interrogé ces femmes sur les failles du renseignement, sur les rivalités qu'il y a entre les services, sur le fait que les services surinvestissent le renseignement technique, parfois au détriment du renseignement humain. Donc, je pense que ce n'est pas du tout une opération de communication. Ils m'ont permis de réaliser un vrai travail journalistique en toute liberté.
Néanmoins, il y avait des conditions qui ont été posées
bien sûr,
par ces femmes
tout à fait.
De ne pas répondre à certaines questions.
Tout à fait. Je ne pouvais pas aller trop loin sur l'opérationnel pour ne pas dévoiler des techniques de renseignement qui doivent évidemment rester secrètes. Je ne pouvais pas non plus évidemment dévoiler leur identité. Donc moi, j'ai repris les codes de l'espionnage, du renseignement, c'est-à-dire qu'elles ont toutes une identité, un prénom fictif. Mais en revanche, si les prénoms sont fictifs, tout ce qu'elles me racontent est rigoureusement authentique.
Alors ces femmes que l'on vous a présentées, parce qu'évidemment il n'y a pas d'organigramme disponible sur Internet.
Non, pas vraiment.
Donc on vous les a présentées, elles ont reçu l'ordre de répondre à vos questions.
Certaines étaient volontaires. On leur a proposé, elles pouvaient dire oui, elles pouvaient dire non, mais la plupart étaient plutôt intriguées ou voire même enthousiastes à l'idée de raconter pour la première fois leur vie à une journaliste.
Oui.
Et du coup, ça a été vraiment pour elles, je pense, une forme de libération de la parole. Comme elles sont soumises au secret défense, elles n'ont le droit de parler de leur dossier ni à leur mari, ni à leurs collègues. Avec moi, un espace de liberté s'est ouvert, elles ont pu un peu sortir du silence des services dans lesquels elles sont confinées parfois depuis 30 ans.
Oui. Néanmoins, il y a des filles dont vous ne direz strictement rien et qui ne figurent pas dans le livre.
Je les appelle
filles qui répondent
«
Comment se passent vos journées ?» Bien, c'est tout.
Je les appelle les espionnes langue de bois. Et j'en ai gardé une ou deux pour montrer aussi la difficulté et le défi qu'a représenté cet exercice d'interviewer des femmes verrouillées, hyper vigilantes et verrouillées par le secret défense. Finalement, c'est pour certaines qui ont été confrontées à un machisme assez frontal, notamment les pionnières, celles qui sont arrivées dans les années 80, elles étaient évidemment très volontaires à l'idée de raconter tout ce qu'elles ont vécu, les brimades, les humiliations.
Justement, on va y venir, hein, vous allez nous raconter quelques-uns de ces parcours de femmes qui travaillent dans les services secrets, les pionnières, les jeunes générations aussi, celles qui vous ont le plus marqué. On y revient avec vous, Dalila Kerchouche.
See reflections on the water, more than darkness in dance. See him surface and never a shadow. On a wind I feel his breath. Golden eye, no time his witness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for the sweetness. For beat the keys will ring him to his name. Shadows as a child.
and be denied. Here's a goal and a heart they cracked. I'll guide for you tonight. Within is the kiss, the time of your miss. Now I've got it in my sight. With a golden, golden night. You go.
GoldenEye, je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est un des James Bond, chanté par Tina Turner à l'origine et dans cette version chantée par une Polonaise, Edita Stritska. Vous publiez Dalila Kerschouch, Espionne, Double vie sous haute tension. Clairement, on voit des phénomènes générationnels pour ces femmes qui travaillent dans les services secrets français, qui effectuent des métiers extrêmement différents les uns des autres, d'ailleurs en fonction des services auxquels elles appartiennent. Mais clairement, on voit, il y a les pionnières qui ont joué sur leur spécificité de femme au départ.
Oui, bien sûr. Le fait d'être une femme, elles ont réussi à en faire un véritable atout. Par exemple, il y a Sylvia, qui travaille dans le renseignement douanier. Sylvia, c'est la Miss Money Penny du renseignement. C'est-à-dire que c'est l'ancienne secrétaire devenue espionne. Elle est arrivée, elle avait 20 ans. Elle était toute jeune, elle était secrétaire au renseignement douanier. Elle me dit, j'avais 20 ans, j'étais fleur bleue. Je suis arrivée dans un service où il y avait 60 gars. J'étais la seule femme. Il y avait un tiers de machos, un tiers de misogynes, un tiers de phallocrates. Il n'y avait pas beaucoup de place pour moi. Donc, elle a été confrontée à un machisme qui nous paraît aujourd'hui complètement archaïque. C'est-à-dire qu'un de ses collègues lui dit « Voilà, on a besoin de tes mensurations pour te confectionner une robe pour une réception importante à laquelle tu vas participer. » Donc, évidemment, elle donne ses mensurations. C'était crédible, elle donne ses mensurations. Le lendemain, elle retrouve ses mensurations affichées dans tous les bureaux, jusque dans l'ascenseur. Elle était mortifiée. Donc, elles ont été stigmatisées. Elles ont été stigmatisées parce qu'elles étaient femmes. Et en même temps, comme ce sont des femmes de tempérament, elles ont utilisé aussi leur féminité comme un atout. C'est clair que sur le terrain, quand elles réalisent des planques, des filatures, les grands criminels de la drogue, les grands caïds de la drogue ou les djihadistes qu'elles filochent, entre guillemets, ne se méfient pas du tout d'une femme. Parce que tout simplement, ils n'imaginent pas qu'une femme puisse être agent secret. Donc, elles retournent ce stéréotype à leur avantage. Donc, très vite, dans les filatures, pour réaliser une filature, les collègues de Sylvia se sont rendus compte que c'était bien pratique d'avoir une femme dans les équipes sur le terrain.
Plutôt que trois gars costauds dans une voiture.
Pour constituer un faux couple. Et un faux couple, ça passe complètement inaperçu, plutôt que trois gars qui ressemblent à des... avec des blousons noirs et des sentiers qui ressemblent un peu à des flics.
C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les témoignages, tous services confondus, de femmes qui d'abord ne disent pas « Mais non, on travaille exactement de la même façon, votre question est déplacée, de vouloir faire une enquête sur les femmes dans les services secrets. » D'abord, elles adhèrent toutes, hein, quand même, globalement au projet. Mais surtout, elles disent « C'est vrai qu'on a un atout, on passe plus inaperçu. » Et puis, dans notre vie privée aussi, peut-être qu'on aime moins se mettre en valeur par notre carrière, donc on est plus discrète. On n'est pas en plein cliché, là.
Non, pas du tout. Parce que la discrétion dans ce métier, c'est complètement stratégique. Ces femmes, je ne sais pas du tout si c'est un trait de caractère féminin ou pas, mais peut-être qu'elles ont moins besoin, elles n'existent pas seulement par leur métier. Les femmes, peut-être, existent moins uniquement par leur métier. Elles existent aussi par leur vie de femme, elles existent par leur vie de famille. Alors qu'un homme, je pense que c'est quelque chose, enfin, sans tomber dans les généralités, c'est peut-être plus statutaire. L'identité masculine est peut-être plus moulée, formatée par l'univers professionnel, par le travail. Ces femmes, pour moi, je pense qu'elles avaient très envie, elles m'ont parlé avec autant de liberté de leur vie professionnelle que de leur vie privée. Je ne sais pas si des agents hommes m'auraient parlé avec autant de liberté de leur vie personnelle.
Alors il y a les pionnières hein, qui ont subi parfois, souvent, des formes de bizutage, mais qui parviennent au fil de la carrière, au fil des dizaines d'années de carrière, à une forme de sincère camaraderie hein, avec les collègues hommes. Et puis il y a les jeunes générations. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'on retrouve comme constante entre ces filles qui sont rentrées récemment dans les services secrets français?
Alors, ce qu'on retrouve comme constante, c'est que leur place, déjà, comme les pionnières ont ouvert les portes, la place des jeunes générations s'est un peu banalisée dans les services secrets. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, c'est courant, il est courant de voir une femme dirigée comme Daphné dans le renseignement douanier, qui dirige une équipe de 20 agents. Elle organise et elle donne le top interpellation sur des opérations pour, comment dire, sauter des affaires, comme on dit dans le renseignement douanier, pour arrêter des trafiquants de drogue ou des trafiquants de tabac à narguilé. Donc, c'est devenu courant aujourd'hui dans les services que des femmes aillent sur le terrain. La grande nouveauté pour moi, c'est de voir des femmes à des postes à responsabilité. Et pas les moindres. Notamment, il y a Valérie, qui est la patronne de la division opérationnelle qui lutte contre le terrorisme à la DGSI, dans le renseignement intérieur. Je pense que c'est le poste le plus exposé et le plus important aujourd'hui dans la lutte antiterroriste en France. Et c'est une femme qui le pilote.
À la DGSE, moins de femmes à des postes clés?
Il y en a quand même. Ce sont deux maisons tellement différentes, avec des cultures différentes. La DGSI a une culture policière, la DGSE a une culture militaire. Et donc, je pense qu'il est plus facile pour les femmes d'arriver à des postes clés à la DGSI. Ce sont pour la plupart d'anciennes commissaires, qu'à la DGSE, où voilà, il y a encore cette culture militaire encore bien présente. Néanmoins, il y a une femme que j'ai rencontrée qui s'appelle Aude, qui a un look un peu ethnique, un peu hippie, avec des bijoux indiens, et qui est d'une des femmes les plus puissantes de la DGSE. Et Aude dirige un service de plusieurs centaines de personnes, qui est le service des interceptions.
C'est-à-dire ?
Ce sont les grandes oreilles, en fait, de la DGSE, le service qui gère les interceptions de communication, les interceptions Internet.
C'est tout, le service des écoutes.
C'est le service des écoutes,
Internet,
tout à fait.
Quel est le profil, en général, de ces filles ? Alors, évidemment, pour toute la partie police, bon, bah, ce sont des jeunes femmes qui ont commencé dans la police. Hein.
Tout à fait.
Bon, avec, tout banalement, dans un commissariat, après des études de droit, par exemple, hein, c'est ça ? Ça peut être le concours de commissaire de police,
hein. Oui, oui, absolument. Il y a beaucoup de jeunes inspecteurs, de jeunes commissaires qui ont commencé dans des commissariats de quartier et qui ensuite ont postulé à la DGSI. Et souvent, ce sont des filles, elles-mêmes filles de policiers. Donc, il y a une forme d'atavisme ou d'hérédité.
On a aussi des filles de militaires.
Voilà, il y a aussi des filles de militaires que l'on retrouve plutôt à la DGSE, en lien avec la culture de la maison. Et il y a des femmes aussi qui se sont retrouvées complètement par hasard dans cet univers. Donc il y a Lise, par exemple, qui est une grande blonde, assez montrée mondaine, en carré Hermès, on dirait une bourgeoise des très BCBG. Lise, elle est arrivée, elle a fait des études de relations internationales, elle a vu un jour une annonce sur l'APEC, grande institution, cherche expert en relations internationales. Elle a postulé et elle est arrivée boulevard Mortier dans ce bunker et elle a écarquillé les yeux en se demandant « Mais où suis-je ? Qu'est-ce que je fais là ?» Et Lise est aujourd'hui une experte sur la thématique des armes de destruction massive.
Quels sont les critères de recrutement ? Comment sont-elles repérées par les services ? Est-ce qu'on leur demande des qualités spécifiques ?
Non, pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, et notamment depuis les attentats de Charlie Hebdo, les services reçoivent énormément de candidatures féminines. Ça, c'est un phénomène nouveau. La DGSE, maintenant, le nombre de candidatures, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Il y a un élan de civisme et une volonté de lutter contre le terrorisme. Et les jeunes femmes qui sont très diplômées, voilà, ont envie, elles aussi, de participer à la sécurité, à la sûreté de la nation. Et elles ont peut-être moins de freins que les anciennes générations. Donc, pour elles, oui, travailler dans les services secrets, c'est de l'ordre du possible.
Alors, certaines sont expertes en manipulation, hein, bien qu'elles aient des convictions fortes. On va y revenir avec vous, Dalila Kerchouche, au fil de ces entretiens, des heures et des heures de rencontres avec ces femmes au cœur des services secrets français. Vous restez avec nous, Dalila Kerchouche. On continue cette immersion juste après le flash, dans un tout petit peu plus de 3 minutes. 7 milliards de voisins espionnent, double vie sous haute tension.
Suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, en compagnie de Dalila Kerchouche, journaliste, grand reporter. Dalila Kerchouche, vous publiez un livre tout à fait passionnant, Espionne, double vie sous haute tension. En gros, vous avez pénétré dans cet univers très fermé de femmes qui travaillent pour les services secrets français. Combien sont ces femmes? Que font-elles exactement? Quels sont les métiers qu'elles exercent? Leur sexe a-t-il une importance? En tout cas, elles ont toutes accepté de répondre à ces questions-là, y compris sur la question du sexe finalement, hein, le fait que vous soyez une femme, comment vous travaillez. Vous avez rencontré une cinquantaine de femmes, on en retrouve quoi, une trentaine de portraits dans votre livre, aussi bien à la direction du renseignement et des enquêtes douanières, au renseignement militaire, sécurité extérieure, renseignements généraux, sécurité intérieure, la DGSI, Tracfin aussi, ça ce sont les services financiers de Bercy qui traquent la fraude fiscale de grande ampleur, souvent liée au grand banditisme. Ces femmes toutes perçoivent dès le début, quand vous les interrogez, le danger des clichés de genre, hein, quand elles acceptent de vous parler.
Bien sûr, elles ont conscience parfaitement de ces clichés de genre et j'ai tout de suite essayé de les rassurer là-dessus en leur disant mais que ce sera un livre qui va au contraire essayer de désamorcer ces clichés de genre. L'une d'elles m'a même dit mais votre livre ne devrait pas exister.
Oui, mais néanmoins,
parce qu'elle elle craignait justement que le livre ne reproduise des clichés de genre. Et moi, je lui ai répondu non, oui. Il faut au contraire les affronter, ces clichés de genre, pour mieux les dépasser.
Est-ce qu'il y a des femmes dans les services secrets français qui vous ont dit « Je ne comprends pas votre question, Dalila Kerchouche, que je sois une femme ou un homme, peu importe, j'exerce un métier dans les services secrets français, point barre. »
Bien sûr, certaines m'ont dit « Mais je ne comprends pas, je travaille de la même manière qu'un homme, il n'y a aucune différence. » Moi, je leur réponds « S'il n'y avait aucune différence, nous aurions donc la parité dans les services. » Or, ce n'est pas le cas. Nous en sommes à un quart de femmes à peine. C'est bien le signe qu'il y a un plafond de verre. C'est bien le signe que la féminité ne va pas de soi dans les services secrets et que c'est une nouveauté que les services doivent appréhender, digérer. Et ça,
et
ça passe par
ça
la verbalisation.
Et c'est aussi pour ça qu'on vous a donné l'autorisation, hein, finalement, de faire ce livre.
Tout à fait. Et j'ai vraiment poussé les services dans leur retranchement. Parce qu'au début, par exemple, la DGSI, ils m'ont donné une heure d'entretien avec 8 femmes en même temps. Je leur ai dit, ça ne va pas être possible, je ne travaille pas de cette manière. Et ils ont très vite compris mes exigences. Et ils m'ont au final donné entre 2 heures et 3 heures avec chacune des femmes. Parce que je voulais réaliser une enquête fouillée. Et ça, ils l'ont complètement respecté.
Quelles sont les femmes qui vous ont le plus marqué, tous services confondus?
Alors, il y a Pauline. Pauline, qui a 29 ans, qui est officier de police judiciaire à la DGSI. Pauline, elle ressemble à une jeune étudiante, lisse, sans aspérité, une petite brunette, avec une toute petite voix fluette. J'avais l'impression presque que j'avais peur de la bousculer avec mes questions, tant elle me paraissait fragile et frêle d'apparence. Et Pauline, elle m'a vraiment, vraiment bluffée et impressionnée. Déjà, elle m'a conduite dans les sous-sols de la DGSI, là où probablement très peu de journalistes sont allés. Elle m'a montré les cellules dans lesquelles les terroristes comme Mera ou comme Reda Kriket ou Salah Abdeslam ont été enfermés. Et on a réalisé l'entretien avec Pauline, l'interview, dans la cellule de garde à vue où elle-même réalise des interrogatoires de djihadistes. Cette jeune femme frêle, d'apparence, est capable de faire passer aux aveux les plus grands terroristes actuels, de les dominer psychologiquement parlant, de jouer de son apparence de femme fragile en leur disant « Mais Raqqa, comment ça s'écrit ?» Elle joue un peu la candide et en même temps, elle est aussi capable de se montrer dure, méprisante, cassante, de jouer sur une grande palette émotionnelle pour les déstabiliser. Et elle passe ainsi parfois 4 jours en tête à tête, en huis clos. Bon, il y a quand même évidemment un service de sécurité, qui est là prêt à intervenir. Mais ce sont des femmes aussi qui sont aussi formées au combat rapproché, qui savent mesurer le danger.
Ces femmes vous ont parlé également de la prise de risque lorsqu'elles sont sur des opérations extérieures. Quel rapport ont-elles par rapport à cette prise de risque pour celles qui l'ont d'ailleurs? Parce que certaines en sont frustrées de ne pas connaître cette prise de risque, de ne pas pouvoir choisir la prise de risque dans leur métier.
Oui, c'est le cas par exemple de Nathalie, colonel Nathalie, qui a une cinquantaine d'années, qui travaille à la DGSE Elle, sa grande frustration, c'était de ne pas avoir pu intégrer le service action de la DGSE, qui est le bras armé du renseignement extérieur. Elle a candidaté à plusieurs reprises et chaque fois, son dossier est resté sous le coude de son chef, qui lui répondait invariablement « Une mère de famille ne peut pas aller sur une zone à risque, sur une zone de guerre. » Elle est fille de militaire, colonel, donc elle, c'était vraiment son rêve absolu. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle aurait voulu savoir si elle aurait été capable de garder son sang-froid sur une zone de guerre. Du coup, il y a une partie de moi-même que je ne connais pas et que j'aurais aimé découvrir. Mais heureusement que les choses ont évolué. Aujourd'hui, la direction de la DGSE considère que...
Donc le service secret extérieur envoie des femmes dans des zones à haut risque, y compris lorsqu'elles sont mères de famille, par exemple.
Si elles en expriment le souhait et si elles l'argumentent, oui, c'est possible. Ces femmes sont quand même très solides psychiquement, et ce ne sont pas ce qu'on appelle des têtes brûlées. Et je pense que la DGSE fait extrêmement attention à ne pas recruter des profils de ce type-là. En tout cas, les femmes que j'ai rencontrées ont quand même une grande clairvoyance sur elles-mêmes.
Alors avec des femmes qui ont, pour certaines d'entre elles, des talents de manipulation. Hein. D'ailleurs, certaines vous racontent, ça ne m'empêche pas d'être manipulée par mes enfants à la maison le soir.
Oui, bien sûr. Oui. Et la manipulation, notamment quand on est officier traitant à la DGSE et qu'on doit manipuler des informateurs qu'on appelle des sources humaines, c'est une partie intégrante du métier.
Pour les convaincre notamment de travailler pour les services, par
tout
exemple
à fait. Pour les convaincre dans des pays du Moyen-Orient, dans des pays d'Asie, pour les convaincre de travailler pour les services secrets français et notamment de dérober des documents ultra confidentiels dans des états opaques, ce qu'on appelle les rogue states. Par exemple, dans un pays en Corée du Nord ou en Iran, ou d'avoir des informations sur l'arsenal nucléaire, ou dans des pays du Moyen-Orient, d'avoir des listes de terroristes potentiels, d'avoir des noms. Donc, elles doivent manipuler ces sources, les convaincre de leur donner des informations extrêmement confidentielles qui peuvent leur valoir à ces sources le peloton d'exécution. Donc, il faut avoir une grande capacité de persuasion et de manipulation pour pouvoir, comme elles disent, prendre le contrôle d'une personne.
Se bâtir une légende, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est avoir une couverture, donc une fausse identité, un faux métier, tout dépend du contexte. On peut se bâtir une légende très rapidement parce qu'on est dans une situation un peu complexe dont on doit se sortir. Par exemple, c'était Daphné dans le renseignement douanier qui s'est retrouvée un jour dans un café chinois où elle n'avait absolument rien à faire là. Donc elle a dû se bâtir une légende très rapidement, trouver un prétexte qui explique la raison pour laquelle elle est là. Ensuite, par exemple, à la DGSE, où là, se bâtir une légende, c'est comme dans la série Le Bureau des légendes, ce sont ces clandestins, clandestines, qu'on envoie dans des pays opaques sous une fausse identité, avec un faux métier, avec un faux passeport, et qui doivent avoir aussi un faux passé sur Internet, par exemple.
Alors, il y a par exemple cette femme qui se fait passer pour une créatrice de bijoux pour rapporter des échantillons de pierres supposées être radioactives pour savoir quel est le degré d'acquisition de l'arme nucléaire dans un pays, si je me souviens bien.
Des armes bactériologiques.
C'est ça, des armes bactériologiques, et qui ramène des cailloux dans son sac à dos. Ça semble énorme en même temps, non ?
C'est énorme et en même temps, c'est très efficace parce que quel douanier pourrait se douter qu'une femme créatrice de bijoux qui ramène des cailloux pour fabriquer ses bijoux pourrait travailler pour les services secrets français ? Encore une fois, le grand atout des femmes, c'est de ne pas susciter la méfiance.
Dalila Kerchouche, vous publiez cette enquête « Espionne double vie sous haute tension ». Vous avez bien sûr parlé de vie privée à ces femmes qui travaillent pour les services secrets français, de leur vie de couple, de leur vie parfois de mère de famille. Alors certaines ont fait le choix de ne pas avoir ni de vie de couple, ni de vie de mère de famille.
Oui, notamment celles qui sont arrivées à des postes à responsabilité. C'est vrai que leur ascension s'est faite souvent au prix d'un certain sacrifice personnel. Et la plupart de celles que j'ai interviewées qui étaient à des postes clés n'avaient pas vraiment de vie de couple, mais surtout pas d'enfants.
Et pour les autres, comment ça se passe ?
Pour les mères de famille, ce qui est compliqué, c'est de gérer le poids du secret dans la vie de famille. C'est-à-dire que la journée, elles peuvent participer à réaliser des planques, des filatures de terroristes dangereux, à libérer des otages, à être dans des enjeux cruciaux et à haute charge d'adrénaline, des moments complexes et douloureux. Et le soir, elles rentrent chez elles, elles n'ont le droit de ne rien dire à leur compagnon ou à leur mari ou à leurs enfants. Donc elles cloisonnent et au fil des ans, c'est lourd à porter. C'est difficile quand on rentre le soir de ne pas partager ce qu'on a fait dans la journée, tout simplement, avec son mari, et que les sujets d'échange, le temps de partage, finalement se réduit et s'appauvrit. Donc il y a deux phénomènes. Soit leur mari finit par ne parler que de lui-même, et donc c'est un peu un échange à sens unique. Et c'est ce que me disait Camille, qui a été clandestine au Moyen-Orient, et qui m'a dit ça, clairement, ça appauvrit la vie de son couple, parce que le centre de gravité s'est déplacé vers l'homme. Et il y a aussi Jeanne, mère de 4 enfants, qui a accédé à un poste élevé à la DGSE, et qui, elle, m'a dit, avec son mari, ça l'a obligée à être plus créative. Donc, ils partagent d'autres sujets de conversation que le travail. Ils ne parlent pas du travail, mais ils partagent une passion pour la photo, pour la musique, et finalement, ils arrivent à vivifier leur vie de couple avec des passions communes. Et elle ne se plaint pas, finalement, parce que le travail, du coup, est peut-être moins envahissant dans sa vie de couple.
Il y a des couples service secret.
Oui, j'en ai rencontré. Il y a Lise, par
comme
exemple.
Comme partout, comme dans tous les milieux professionnels.
Comme dans tous les milieux professionnels. Et ce qu'elles m'ont dit aussi, c'est que c'est comme Lise à la DGSE, elle m'a dit, mais c'est plus pratique parce qu'on fait le même métier, on se comprend à demi-mot parce que même...
Oui, ce qui ne veut pas dire qu'on a davantage le droit de se parler des soucis sensibles. Il y a ce mari qui dit à un collègue de sa femme dans un dîner entre amis, « Ah, vous aussi, comme Nathalie, vous travaillez dans un garage. » Et le collègue de répondre, « Oui, moi, je suis le mécano. » Et elle dit, « Heureusement que mon mari a de l'humour, finalement. »
Oui, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de faux-semblants, où il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits, et ils essaient de s'adapter, de se couler dans cet univers-là. Et ce n'est pas toujours facile pour les conjoints.
Aujourd'hui, tout de même, se pose la question, on l'a dit en début d'émission, on a grosso modo, en moyenne, tous services confondus, un quart de femmes, même s'il y a plus à la DGSI, donc à la sécurité intérieure. Mais globalement, se pose la question de féminiser les services secrets. Est-ce que ce débat sur l'équité a vraiment lieu d'être dans un contexte aussi crucial aujourd'hui que la lutte antiterrorisme, qui occupe évidemment une bonne partie des services?
Bien sûr qu'il a lieu d'être, parce que tout simplement, les services sont en train de prendre conscience qu'ils ne peuvent plus se passer de la moitié des talents de la société, qui sont les talents féminins. Aujourd'hui, le nombre de jeunes femmes diplômées est égal, voire supérieur à celui des hommes.
On sait d'ailleurs que les services recrutent souvent à Sciences Po, par exemple, hein,
oui,
pour ce qui est de la sécurité intérieure ou extérieure.
Oui, Sciences Po, l'ENA, Polytechnique, ils ont un recrutement très sélectif, parce qu'en général, ils ont évidemment besoin des meilleurs. Et aujourd'hui, les femmes font partie des meilleurs.
Recruter des femmes à double culture, là aussi, ça apparaît comme une nécessité, notamment des femmes arabisantes, par exemple.
Bien sûr, des femmes arabisantes ou des hommes arabisantes d'ailleurs. Pour mieux comprendre ce phénomène en expansion de radicalisation, il faut davantage d'arabisants, et je pense que c'est même le prochain défi des services après la féminisation, c'est intégrer davantage de diversité. Il y a Camilia, par exemple, dans les nouveaux RG, qui est le renseignement territorial, et Camilia, elle est franco-marocaine, c'est une fille du 9-3, et elle est débrouillarde, elle a du bagou, elle a de l'énergie, aisance. Et quand elle filoche des prêcheurs salafistes dans les marchés de Seine-Saint-Denis, elle passe complètement inaperçue. Elle est aussi capable de comprendre les codes de la communauté musulmane et de comprendre la manière dont les salafistes, en tout cas, noyautent les mosquées, leur capacité de persuasion, parce que comment ils essayent de recruter dans les banlieues. Donc évidemment, on a besoin d'agents arabisants capables de décoder ce fonctionnement-là.
On est passé récemment des femmes de djihadistes à des femmes djihadistes, hein, des filles très jeunes capables de commettre elles-mêmes des attentats. Est-ce que ça change aussi le débat sur la féminisation des services secrets ?
C'est encore trop tôt pour le dire, parce que c'est un phénomène très récent. Mais évidemment, pour approcher ces femmes djihadistes, il est plus facile d'envoyer des femmes que des hommes.
Dalila Kerchouche, la plupart de ces femmes, on le sent bien quand elles vous racontent leurs histoires, partagent à la fois des convictions quant à l'utilité, quant à l'importance de leur mission pour la sécurité de la France, et en même temps, depuis les attentats, on sent évidemment un immense désarroi qui n'a pas épargné les hommes et les femmes qui travaillent dans les services secrets, voire une interrogation quant à l'utilité du renseignement, vu l'ampleur du radicalisme religieux. Il y a une de ces femmes qui parle de plaies béantes dans la société française. Sous-entendu, est-ce qu'on est encore dans un problème de renseignement ou est-ce qu'il ne faut pas regarder ailleurs ?
C'est un problème qui, évidemment, dépasse
le monde clairement.
Du renseignement. C'est Valérie, la patronne de l'antiterrorisme à la DGSI. Elle est parfaitement lucide, elle voit bien les tensions, les frictions dans la société française et notamment ce phénomène en expansion de radicalisation et de radicalisation violente. Et elle dit aussi que les services de renseignement arrivent en bout de course pour mettre un pansement sur cette plaie béante. Mais c'est une faillite de l'éducation, c'est une faillite de politique publique, c'est une faillite globale de la société française, d'après elle.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Dalila Kerchouche. Je vais redire le titre de votre enquête espionne, double vie sous haute tension. C'est paru chez Flammarion. On va passer maintenant à un reportage sur un tout autre sujet. Quoique, une compagnie de théâtre, pas comme les autres, implantée dans les quartiers sensibles et qui séduit les jeunes. Ça sera juste après Perfect Grace.
Cruising down the boulevard, I thought I saw your face, but it was just a paper dove flying away. City lights are flashing by. From the sky in perfect grace, bodies on the dance floor dancing cheek to cheek, did skull ball burning, smoke filled rooms and still this yearning, babe. Looking at the stars, I wonder if you're looking too. No, if you wanna call me every time you fall into a haze.
Ta mère en tongue, ce drôle de nom, c'est celui d'une compagnie de théâtre. Alors tout est rapproché, mais il faut comprendre ta mère en tongue, donc les sandales, une compagnie qui met en scène des enfants et des adolescents de 5 à 17 ans issus des quartiers populaires. C'est une compagnie qui est implantée depuis plus de 20 ans dans le quartier de Belleville, à Paris, dans le 20e arrondissement, dans les villes de Saint-Denis, de Mantes-la-Jolie. Ta mère en tongue, c'est devenu une institution pour les jeunes, pour les parents aussi, pour les enseignants de ces quartiers. Et peu avant l'été, 24 jeunes de la compagnie présentaient deux spectacles à la Maison des Métallos à Paris. Ruy Blas de Victor Hugo et Robin des Bois. Alice Milo, notre reporter, était aux côtés des jeunes.
La reine d'Espagne a découvert notre complot. Scrogneux ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On obéit, on disparaît et on se venge du diable.
Oh oui, Morcilla ! Une vengeance profonde.
Je suis Christine Pélicane, je suis la fondatrice de Ta mère en tongue. C'est une compagnie qui monte des spectacles dans les quartiers d'Île-de-France. On a commencé à Belleville, Paris, Mantes-la-Jolie et Saint-Denis. Et on monte des spectacles avec les gamins des quartiers. Au début, si on leur dit « vous allez faire du théâtre », ils ne savent pas ce que c'est. On les amène eux au théâtre, on amène leur famille aussi au théâtre. Il y a une énergie dans les quartiers qu'il n'y a pas ailleurs. Tout de suite, les professeurs des écoles qui ont commencé à venir voir leurs élèves qui étaient sur scène, ils ont dit « Mais vous ne pouvez pas jouer avant la fin de l'année ?» Ils disaient « Non, non, parce que là, il s'est passé un déclic. Le gamin, depuis qu'il a été valorisé sur scène, c'est un autre. Depuis que ses camarades de classe, ses parents, ses professeurs l'ont vu, c'est un autre. D'être sur scène, il va être valorisé. » On lui apprend à parler aussi. On leur apprend à regarder sans baisser les yeux.
Et à l'école, ça leur permet aussi d'avoir de meilleurs résultats, d'être...
On n'est pas non plus la panacée. Hein. Il y a eu une époque où les professeurs ou les partenaires, ils disaient « Ah, ta mère en tongue, on va leur inscrire tel gamin. » Il ne tient pas ni à l'école, ça ne va pas, à la famille, chez lui. Donc, ah. Mais nous, notre métier, c'est le théâtre et on ne peut pas tout soigner. Et on n'est pas des psys aussi. Il y a des gamins, on sait qu'on ne pourra jamais remplacer ni les sciences sociales, ni la psychanalyse, ni voilà. Donc on a nos limites. On a des grandes troupes de 24 gamins qui ont de 5 ans et demi à 14 ans. Sur Saint-Denis, ils ont jusqu'à 17 ans bientôt.
Et ils jouent sur scène en même temps, c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que sur la scène, dans un même spectacle, il y en a qui ont 5 ans et il y en a qui ont 12
oui.
ans. Quoi.
Ah oui, oui. Mais on adore la mixité dans tout. On veut autant de filles, autant de garçons, toutes les couleurs. En ce moment aussi, avant on n'y pensait pas, mais là, la diversité aussi au niveau de la religion, ça devient super important au vu de l'actualité. Avant, on n'y pensait pas, parce qu'on disait laïcité, tout ça, on n'en parle pas. Sauf que là, vu ce qui se passe en ce moment, c'est très important de parler de religion. C'est devenu un outil d'éducation populaire très forte. On fait réfléchir sur le comment vivre ensemble, faire ensemble, construire ensemble. C'est avec nos différences. C'est Molière qui disait c'est en riant qu'il faut instruire la jeunesse. Donc c'est pas d'aujourd'hui.
Hein. Ouais, Robin des Bois, ça jette. C'est parti. Il va y avoir du ramdam à Nottingham.
Allez, venez. On va trouver quelque chose avec tes.
Il y a Robin des Bois, on joue Robin des Bois et Ruy Blas. Et moi, je joue dans Robin des Bois, je joue le prince Jean. C'est le méchant, c'est celui qui veut tuer Robin des Bois. Du coup, j'ai jamais joué vraiment un rôle méchant. C'est assez marrant de crier partout.
De crier ?
Ouais, il crie souvent.
Moi, je joue dans Ruy Blas, je suis la marquise d'El Pasto. Elle aime trop prendre aux pauvres et pour de nos riches. Elle est un peu bizarre. Elle pense pas aux autres.
C'est un personnage égoïste alors.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre ? Pourquoi c'est exaltant pour vous d'être sur scène ?
Tu te défoules un peu et tu t'exprimes. Et c'est de pouvoir parler mais sans être soi-même.
D'être quelqu'un d'autre, c'est ça ?
Ouais, voilà, c'est ça.
Par exemple, la marquise, elle se sent trop forte. En même temps, je me sens forte.
En jouant la marquise, tu te sens plus forte dans ta vie à toi aussi ?
Ouais.
Pourquoi cette trompette, shérif ? Ce sont les seigneurs qui viennent vous prêter allégeance, my lord. Ah, très bien !
Alors moi, j'ai écrit Robin des Bois, l'adaptation qui est mise en scène par Jennifer Catelin.
Mais donc c'est vous qui avez accompagné les enfants toute l'année ?
Oui, c'est moi. Ouais. Ce qu'on a essayé de faire dans cette pièce-là, c'est que ça ne soit pas simplement un héros, Robin des Bois. C'est que c'est la force du collectif, la force du peuple, la force d'être ensemble qui fait que les choses peuvent changer. Robin, c'est l'emblème, c'est le symbole, mais autour de lui, s'il est tout seul, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis de l'imagerie aussi super-héros d'aujourd'hui. Ils sont gavés d'images avec des types qui ont des super-pouvoirs, qui sont tous plus forts les uns que les autres, qui renversent des planètes entières, et que d'un seul coup, retourner sur des héros un peu simples, un peu, voilà, qui se battent avec des arcs et des flèches, avec des moyens tout à fait terriens et normaux, et juste avec une grande conviction et une grande foi en ce qu'ils font, eh ben ça leur change un petit peu l'imaginaire auquel ils sont très très habitués, sinon gavés dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui au niveau des spectacles. Et le fait d'avoir une relation au temps comme ça et de se dire il y a 400 ans, 200 ans, 600 ans, on a monté aussi un Spartacus, 1000 ans, les gens se battaient pour les mêmes valeurs et ces valeurs sont toujours valables et d'actualité, ça leur permet d'avoir une perspective historique et temporelle dans un monde qui va très très vite aujourd'hui. Donc c'est aussi à ça qu'on s'attache.
Prince Jean, tu as fait une énorme erreur. Quand je suis parti, tu as cru que le royaume sera à ta merci. Mais tu as oublié le peuple et sa soif de jus.
Voilà, c'était un reportage d'Alice Milo pour cette compagnie Ta mère en tongs. Vous connaissiez Dalila Kerchouche, vous qui êtes journaliste?
Non, je ne connaissais pas, mais je découvre avec grand plaisir.
C'est pas si éloigné que ça du sujet de votre enquête. Vous avez enquêté sur les femmes dans les services secrets. Certaines viennent de quartiers sensibles.
Bien sûr.
Probablement minoritaires. Néanmoins, elles sont là aussi.
Pas suffisamment. Mais elles sont là.
Dalila Kerchouche, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes fille de Harki.
Oui. Alors, j'en parle dans le livre, dans le sens où, moi aussi, je viens d'un monde un peu parallèle. C'est-à-dire que je suis née dans un camp, derrière des barbelés, dans le sud-ouest de la France. Et mes parents se sont battus pour sortir leurs enfants des camps, et notamment ma mère. Alors, forcément, de par mon histoire, j'ai toujours été attirée par les mondes du secret, du tabou
et du
silence. Et aussi
du contrôle de soi, aussi d'une certaine façon, de serrer les dents.
Et de se dépasser aussi, parce que moi qui suis fille de parents analphabètes et illettrés, mon rêve d'enfant était de devenir écrivain. C'est ce que je suis devenue aujourd'hui, donc vous imaginez le chemin parcouru. Et forcément, de par mon histoire, dans mon travail d'écrivain, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher, extraire des paroles enfouies.
Et des paroles rares.
Et des paroles
en tout cas,
cachées.
Là, c'est le cas pour ces femmes au cœur des services secrets français.
Et des paroles cachées. C'est ce que j'ai fait avec mon premier livre, Mon père se harquit, il y a une dizaine d'années. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec Espionne. Libérer les paroles de ces femmes du silence des services dans lesquels elles sont confinées.
Espionne, double vie sous haute tension, Dalila Kerchouche, c'est paru chez Flammarion. Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous.
Dans le studio des 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Nérand, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, c'est Charlie Dupiot qui présentera l'émission. Je joue, il joue, elle joue. Les jouets sont-ils sexués? Poupées pour les filles, voitures pour les garçons? Le sexisme commence-t-il dès le berceau? Comment les jouets peuvent-ils enseigner aux enfants l'égalité entre les sexes?